Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette dernière table ronde va évoquer l'évolution des pratiques en promotion de la santé, c'est-à-dire passer de la phase qu'on a évoquée depuis ce matin, de la vision des experts et des scientifiques, à la concrétisation sur le terrain. Alors, pour ce qui est de la santé environnementale en mutualité, le président Cagnard vous l'a dit ce matin, l'engagement du mouvement mutualiste date de 2009 avec deux engagements forts lors de son congrès de Bordeaux. La lutte contre l'épidémie des maladies chroniques qui passe par la promotion de la santé environnementale en intégrant que prévention et précaution sont deux logiques qui sont complémentaires et indispensables en promotion de la santé. Mais attention, au-delà du seul principe de précaution qui est constitutionnel, la logique de précaution peut aussi être le fait de chacun d'entre nous, de chaque individu qui peut choisir ou pas de mettre en œuvre des mesures de réduction des risques d'une façon éclairée, mais en même temps sans subir de messages anxiogènes, on l'a évoqué ce matin. Par ailleurs, le mécanisme de perturbation endocrinien qu'on a évoqué et la question du lien entre l'environnement chimique, l'obésité et le diabète ont illustré parfaitement ce positionnement pour le mouvement mutualiste. Ainsi, ces engagements se sont donc concrétisés en 2010 dans le cadre du partenariat que nous avons fait avec le réseau Environnement Santé. Alors, l'apport de la mutualité française à la santé environnementale. Alors, tout d'abord, un réseau majeur en promotion de la santé. Nous avons donc 200 professionnels environ, avec 3000 actions par an qui se déclinent sur l'ensemble du territoire. Donc, voilà le concret dans le mouvement mutualiste. Puis, un attachement au principe d'éducation pour la santé. Alors, je vais les rappeler rapidement, mais simplement quelques-uns. Tout d'abord, bannir les approches descendantes, et puis, je l'évoquais tout à l'heure, les messages anxiogènes. Diffuser une information accessible à chacun des concitoyens, rendre l'individu, nos concitoyens, autonomes, favoriser l'approche communautaire, collective, et impliquer les populations. Enfin, une capacité à agir sur, je le rappelle, les cinq axes de la charte d'Ottawa qui date de 1984 en promotion de la santé. Tout d'abord, créer des milieux favorables, réorienter les services de santé, élaborer aussi une politique publique saine, acquérir des aptitudes individuelles et renforcer l'action communautaire. Ça, je pense que vous le saviez déjà, mais c'est parfois bon de le rappeler. Alors, sur les thématiques abordées en mutualité, concrètement, alors des thématiques somme toute assez classiques, les risques solaires, les nuisances sonores, les accidents de la vie courante et les chutes, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur, les maladies chroniques, les allergies, l'asthme. Et puis, pour ce qui concerne une expérimentation que nous menons en Bourgogne, le Conseil médical en environnement intérieur, qui fonctionne dans notre région depuis 2009. Fin 2009, avec le soutien des professionnels de santé, avec l'Agence régionale de santé, avec les collectivités locales, mais aussi les mutuelles. Alors, de quoi s'agit-il ? Là, ce sont des visites chez le patient qui s'effectuent sur prescription d'un spécialiste avec qui nous avons des accords, les pneumologues, les allergologues, les pédiatres, les ORL, qui, eux, renseignent sur tous les symptômes cliniques et les allergènes qui sont testés positifs. Et ensuite, la visite par notre conseillère médicale en environnement intérieur qui est réalisée chez le patient, chez la personne concernée, qui permet d'une part, de mieux connaître les symptômes, les habitudes de vie et en même temps la prise médicamenteuse en fonction de la pathologie, le traitement de l'asthme, les rhinites, les conjonctivites, etc. Et d'autre part, d'évaluer l'habitat, puisque l'environnement est important grâce à des prélèvements qui sont biologiques et chimiques et un compte-rendu qui ensuite est envoyé à la fois aux patients et à la fois aux prescripteurs pour prendre des dispositions et modifier des habitudes de vie, voire transformer l'habitat et les accompagner dans les démarches à faire pour obtenir des financements. Voilà un exemple qu'il était important de citer. Donc j'évoquais des thématiques classiques, mais en même temps passer à la prise en compte des risques atrophiques émergents, comme ce qu'on a évoqué, les perturbateurs endocriniens, les ondes électromagnétiques, les pesticides cosmétiques, les produits ménagers, etc. Mais là aussi, faire attention à l'urgence à traiter la promotion de la santé environnementale, qui ne doit pas faire oublier les principes d'éducation à la santé. Alors le public, pour nous, en mutualité, cible, en fonction des actions que nous avons menées, bien entendu le grand public, les populations fragiles, on l'évoquait ce matin, les femmes enceintes, les parents aussi de jeunes enfants, mais ne pas oublier les publics précaires, le président Cagnin l'a évoqué tout à l'heure, bien entendu les professionnels de santé et les gestionnaires d'établissements sanitaires et médicaux, et y compris bien sûr nos propres réalisations mutualistes qui sont concernées. Des exemples de types d'actions, des recherches d'actions biomonitoring, on l'évoquera tout à l'heure, mais aussi très concrètement des ateliers d'éco-consommation, apprendre à lire des étiquettes, des conférences débats, d'informations et d'échanges, et des développements d'outils, des stands, etc. Donc pour en terminer avec ces propos, la mutualité, vous le savez, dispose de réseaux d'offres de soins et en conséquence, la prise en compte de ces enjeux environnementaux dans ces établissements est une obligation. Donc voilà pour cette présentation. Alors ce que je vous propose pour terminer ces échanges, une première table ronde qui va évoquer la réduction des risques dans les établissements sanitaires et médico-sociaux avec 3 intervenants, puis ensuite quelques échanges dans la salle, et nous aurons une deuxième partie pour interpeller, sensibiliser le grand public, où nous aurons là aussi 3 intervenants et terminerons avec des échanges. Alors pour cette première partie, je vais inviter le docteur Olivier Thomas qui puisse intervenir. Voilà, s'il vous plaît, sur les bonnes pratiques dans le secteur hospitalier. Donc, vous êtes président pour le comité pour le développement durable en santé. Donc, comme on est dans une gestion du temps un peu serrée, je vais demander à chacun des intervenants de respecter le temps qui leur a été attribué. Sinon, je ferai comme ma collègue, je ferai un tout petit rappel amical, bien entendu.
Il n'y en aura pas besoin. Je vais aller directement à la fin de quasiment de. Ça, oui. Je vais commencer par la conclusion. Je ne suis pas docteur. Je tiens à le préciser. Je ne suis pas médecin. Je l'ai vu sur le programme, mais je tiens à le préciser. Tout d'abord, merci André et toute ton équipe de faire en sorte que le C2DS puisse participer à vos travaux. C'est toujours un plaisir de pouvoir travailler sur ces sujets-là. J'ai bien entendu votre message sur les discours anxiogènes et en effet, je suis en ce moment dans cette période en train de me dire que nous avons de la chance de travailler sur ces sujets-là parce qu'en effet, ils sont anxiogènes, mais si on continue à les traiter de manière anxiogène, on continuera à ne pas être entendu ni par les citoyens, ni par les professionnels, ni par nos salariés, ni par les politiques, etc. Donc, j'en arrive à penser que c'est une chance aujourd'hui de pouvoir travailler sur ces sujets. De toute façon, c'était inéluctable parce que quand une population sur une planète comme la Terre passe de 1 milliard d'humains il y a 2 siècles à 7 milliards aujourd'hui et 9 bientôt, avec des gens qui veulent des voitures, des iPads, des iPhones, des ordinateurs, manger, ça ne peut pas de toute façon se faire sans effets collatéraux comme ceux qu'on évoque depuis ce matin. En revanche, pour les professionnels de santé que nous sommes pour la plupart, eh bien, c'est véritablement une chance que de participer à ce tournant. C'est l'introduction et la conclusion. Vous voyez, je vais réussir à vraiment être très synthétique. À quel titre je suis là aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a maintenant presque une dizaine d'années, j'ai créé une association qui s'appelle le Comité pour le développement durable en santé. Je ne vais pas vous présenter les slides, ça serait trop long. Grosso modo, 25 établissements il y a 10 ans, 330 aujourd'hui, sur tout le territoire, qui mettent en commun les expériences, les compétences, les choses innovantes, favorables et défavorables, pour justement faire en sorte d'éviter de mettre en place celles qui sont défavorables. Donc 330 établissements qui travaillent au quotidien. Et si je résume l'action sur la réduction des impacts, et je crois que si tout le monde travaille comme ça dans la santé, on aura gagné. La réduction des impacts économiques, écologiques et sanitaires. Ces 330 établissements travaillent de cette manière-là et mutualisent leurs pratiques. En parallèle, j'ai également créé une agence d'experts, d'une dizaine d'experts, qui travaillent aujourd'hui, qui fait ce que vous avez évoqué, des mesures de qualité d'air intérieur, de l'analyse de risques chimiques, des bilans carbone, tous les outils déclinés au secteur de la santé. Ça représente aujourd'hui une équipe de 16 personnes sur l'ensemble de ces deux entités. Voilà pourquoi je suis là. Petite anecdote, avec André, on a dénoncé il y a déjà 5 ans, en 2008, la problématique des parabènes, des éthers de glycol, du BHT, BHA, enfin tous ces machins-là dans les cosmétiques. C'est grâce à ça qu'on a fait un premier travail, qu'on s'est connu. C'est aussi grâce à ça que j'ai pu renforcer mes convictions, puisque 24 heures après, j'étais viré, puisque je dirigeais des établissements de santé depuis 20 ans. Donc ça n'a fait que renforcer mes convictions pendant toutes ces étapes. Alors si j'avance au message que j'ai envie de vous donner, ça va être juste deux slides. Les perturbateurs endocriniens à l'hôpital, où sont-ils ? Ben, ils sont comme partout, c'est-à-dire comme chez vous, comme chez moi, comme dans toutes les entreprises. Vous en avez la liste, mais avec des spécificités. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on concentre. On concentre énormément puisqu'on utilise beaucoup plus de produits chimiques. Vous imaginez bien que c'est l'environnement dans lequel on lutte contre les infections nosocomiales. Il y a eu un grand tournant il y a 10 ans sur le sujet. On a oublié qu'il fallait parler lutte contre les infections nosocomiales, mais aussi réduction des impacts environnementaux, écologiques et sanitaires. Donc maintenant, on nettoie n'importe quelle parcelle hospitalière avec les biocides les plus puissants de la planète, alors qu'ils ne sont pas utiles à certains endroits, bien sûr, parce que je prends souvent des revers de bâton quand j'annonce des choses comme ça, très synthétiques. Mais il n'y a certainement pas besoin d'utiliser les biocides les plus puissants pour nettoyer nos salles d'attente, nos couloirs, nos cuisines, etc. On peut faire plus simple. La preuve, c'est qu'il y a quand même un paquet d'établissements en France aujourd'hui qui ont réussi à réduire de près de 80% les références et les quantités de produits chimiques utilisés quand ils font un diagnostic, un audit sur le risque chimique hospitalier. Donc ça marche, ça existe. La difficulté, c'est d'arriver à en parler. Donc encore merci de pouvoir nous permettre de le faire. Petit focus sur l'air intérieur que vous avez évoqué aussi, puisqu'on a lancé une campagne cette année sur le sujet. Un sujet très délicat, voire tabou, puisque quand on fait des mesures, en clair, on ne peut pas communiquer sur les résultats derrière. J'ai actuellement dans cet ordinateur des quantités de mesures que je ne peux pas présenter, puisque si je les présente, on va commencer à nous parler de droits de retrait, etc., etc. Donc c'est un sujet totalement tabou, et je pense même que c'est le véritable défi des années à venir, parce que sur la construction des bâtiments, sur ces 30 dernières années, on a confiné le bâtiment, à juste titre, hein, pour réduire les consommations énergétiques. Mais confiné, en oubliant de ventiler, voire de surventiler, en ne tenant pas compte des facteurs d'émission de l'ensemble des produits de construction ou de rénovation. Résultat des courses, je peux vous présenter des quantités d'endroits, pas uniquement dans le secteur hospitalier. Je m'amuse des fois à me trimballer avec l'appareil quand je suis à Paris, dans le métro ou ailleurs. Je pense que je vais de temps en temps mettre des résultats sur mon blog, ça risque d'être assez fun. Parce qu'on est quand même dans certaines pièces, hein, à 6-7 fois les valeurs limites d'exposition pour la santé humaine, et je ne parle que du formaldéhyde. Ce qui veut dire qu'il y a des quantités de locaux qu'il faudrait clairement fermer, dans lesquels on n'a pas le droit de travailler. C'est une réalité. Donc le défi de demain, c'est d'arriver à construire dans les enjeux du Grenelle 2 de la réduction et de la rénovation énergétique, mais tout en garantissant une qualité d'air intérieur. Donc on a lancé une campagne cette année, elle est à la disposition de la mutualité, si vous le voulez, parce que plus on sera nombreux à rentrer dans ces éco-gestes, plus on obtiendra des résultats, sachant que les actions sont simples, faciles, pas coûteuses, et que ça n'est pas une question d'argent. Si on vous dit « ah oui, mais ça va coûter cher », pas du tout. Utiliser des produits moins émissifs, c'est pas plus cher, il suffit de lire les étiquettes, c'est à notre disposition. Donc l'hôpital génère une quantité d'impact, en fait, hein, dans les matériaux de construction, les déchets. Vous savez qu'on a énormément de déchets, on est aujourd'hui à 45 déchets dans le secteur hospitalier, hein, on en avait identifié 3 il y a 10 ans, il y en a 45 aujourd'hui qui sont, pour certains, collectés, triés à part, pour certains aussi revalorisés, c'est pas partout le cas. Mais nous sommes de gros établissements énergivores et très impactants. Donc la logique de cette association, c'est justement de mettre en place tout un tas de bonnes pratiques et de les mutualiser. Quand on trouve une bonne pratique dans la clinique de Sarcelles, ici, que je cite souvent parce qu'elle est exceptionnelle, eh bien elle est diffusée dans l'ensemble du secteur pour justement être moins impactant. Quel est le plan d'action sur le sujet ? On a fait un plan d'action en 6 étapes sur le C2DS. Et les 6 sont indissociables. Si on ne travaille que sur un sujet, ça ne marche pas. La formation initiale continue, c'est une clé. Aujourd'hui, tous les sujets que vous évoquez dans cette salle depuis ce matin, il n'y a pas un professionnel de santé qui est formé, ni au début dans sa formation initiale, ni en formation continue. Alors si le pédiatre, la sage-femme, le gynéco, etc., ou le médecin généraliste n'est pas capable de nous répondre sur les COV, les CMR, les pesticides, les cosmétiques, qui le fera ? Alors qui le fera ? Bah, ceux qui peuvent, par le biais de ce que vous faites. Mais là, ça ne suffit pas. Donc formation initiale et continue, c'est un aspect absolument majeur pour la suite. Une politique d'achat éco-responsable, ça c'est un terme un peu pompeux, mais on ne l'a pas trouvé plus simple. Le secteur hospitalier, ce sont quand même 15 milliards d'euros d'achats par an. J'ai envie de dire, il y a 4 ou 5 ans en arrière, il n'existait pas de politique d'achat. C'est-à-dire qu'on achetait avec un seul objectif, un seul critère, c'est le moins cher. Mais ça, c'est très dangereux parce que quand on parle du moins cher, on n'est pas dans une politique d'achat responsable. On peut acheter le moins cher en coût, mais si on n'analyse pas en coût global, on se plante puisque de toute façon, les effets induits et les impacts générés par nos achats vont être beaucoup plus coûteux. Alors je peux vous citer tout à l'heure, peut-être lors des échanges, des quantités d'exemples, ça serait trop long, mais il est clair qu'aujourd'hui, il vaut mieux acheter peut-être un petit peu plus cher. Allez, un exemple. Les solutions hydroalcooliques, elles concernent tout le monde dans le secteur hospitalier. Tout le monde a été bassiné par ça. Donc aujourd'hui, il est obligatoire, pour être bien noté dans un hôpital, de consommer des litres de produits. Donc l'hôpital est jugé, non pas sur les infections nosocomiales, l'hôpital est jugé sur le volume qu'il a consommé. Donc je leur dis maintenant, mettez comme chez Novotel et Ibis, hein, mettez les savonnettes, les mignonnettes dans les salles de bain, comme ça, ça augmentera votre ratio. On en arrive à des décisions de ce type. Mais il faut savoir que les industriels ont marqué sur les produits que le contenant était un contenant dangereux, interdit de jeter aux ordures. Mais la collecte de ces déchets n'existe pas en France. Donc 100% de ces produits qui sont consommés sont jetés dans les poubelles et c'est interdit. Donc il vaut peut-être mieux acheter une solution hydroalcoolique 5 centimes plus chère si le fournisseur la reprend et la revalorise. Parce que derrière, de toute façon, ça aura un coût, soit en termes de gestion de déchets, de transport, soit en termes de santé publique. Des exemples comme ça, on peut en écrire un livre. D'ailleurs, ça a été fait. On peut vous les diffuser. Le troisième sujet, c'est la veille. La veille et la R&D. Alors, je vais être un peu provocateur. Ça n'existe pas dans la santé, la veille et la R&D. Il n'y a pas de recherche et développement en santé en France. Ça n'existe pas. Elle n'est pas structurée. Il n'y a pas d'études. Quand on demande à monter des opérations pilotes pour mesurer, par exemple, la réduction des impacts du nettoyage vapeur dans un hôpital, il n'y a pas d'études. Alors chacun y va, chaque hôpital, chaque établissement fait des efforts, fait son petit travail de son côté, mais il n'y a pas d'études au niveau national. Donc soit c'est du pipeau, pardon, mais soit c'est faux, c'est pas vrai que la vapeur nettoie bien. Dans ce cas-là, il faut le dire, il faut le dénoncer, il faut dire attention, c'est dangereux, c'est pas bien. Soit ça marche et c'est ce qu'on pense, et ça évite dans un hôpital peut-être 80% de produits chimiques, donc tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, des déchets, des effluents liquides, des émanations, des COV, etc. Donc s'il n'y a pas de veille, de R&D sur ces sujets-là pour mutualiser sur le plus grand nombre, on n'avancera pas. Alors ça fait partie peut-être du bel enjeu qu'il y a devant nous. Je suis content de vous croiser parce que depuis que je vous vois à la télé tout le temps, monsieur le député, je voudrais vous parler du PNSE 3 parce que c'est une chance pour nous tous. Et ce PNSE 3 qui est devant nous est une véritable chance puisqu'on pourra peut-être aborder tous ces sujets-là. L'éco-conception des bâtiments, vous imaginez bien sûr que c'est une clé. 1 million de mètres carrés de bâtiments hospitaliers dans lesquels on n'a jamais tenu compte, par exemple, des facteurs d'émission, des matériaux de construction, de rénovation. Bon, donc il n'y a pas besoin de faire un dessin derrière pour dire que ça serait peut-être bien de commencer et que ça commence bien sûr par des achats mutualisés. Hein, si on est 100 établissements de santé à acheter de la peinture sans composé organique volatile, ben on ne la paiera pas plus cher, on la paiera peut-être même moins cher que si on achète tout seul des produits qui sont très toxiques. Donc, il existe des labels, il existe des quantités de choses sur le sujet. On a même fait un film, pour ceux que ça intéresse, sur les établissements les mieux éco-conçus en Europe. Et on a trouvé des établissements absolument passionnants, fabuleux, qui ont réussi à réduire les consommations énergétiques de près de 30% et d'assurer la qualité de vie, c'est-à-dire en positionnement l'humain au cœur du bâtiment. Les deux dernières thématiques, la gestion responsable des déchets, ça va de soi. 45 déchets, c'est compliqué à gérer, ça nécessite beaucoup de logistique, ça nécessite beaucoup de connaissances, de compétences et surtout de mutualisation. En effet, si un seul établissement décide de traiter ses contenants de solutions hydroalcooliques, ça va lui coûter un bras. Si on est 100 établissements, 200, 300 et l'ensemble des établissements à structurer cela avec les industriels, puisque je pense qu'il faut co-construire ces systèmes, eh bien demain nous aurons réglé la situation et certainement diminué nos impacts économiques, écologique et sanitaire. J'en arrive à la fin. Ça a été sur un lobbying éthique. Ça devrait être implicite, ça l'est pas. Hein, ça l'est pas du tout. Quand on essaie d'intervenir auprès de l'Assemblée nationale, auprès des sénateurs, auprès de tout un tas de gens, pour essayer de dire peut-être qu'on devrait arrêter d'inonder le secteur hospitalier de matériaux de construction à base de nanoparticules, parce que c'est dangereux, on le sait. Le dioxyde de titane, notamment, qu'on trouve sous forme de nanoparticules maintenant dans des tétines pour nouveau-nés, dans des brosses à dents, dans des peintures, des vernis, des revêtements de sol, des faux plafonds, et j'en passe. Bon, hélas, ça fait 5 ans qu'on essaie de le faire savoir, que peut-être il faudrait, pourquoi pas, même un projet de loi pour des autorisations de mise sur le marché de matériaux de construction, qu'on mette pas n'importe quoi dans nos établissements de santé notamment. Eh bien voilà, je crois que plus on sera nombreux à travailler sur ces sujets-là, ensemble, plus on atteindra des résultats. Et le mot de la fin, je crois véritablement que, comme je l'ai dit en introduction, c'est une chance. Et deux, on n'y arrivera que si on mutualise et si l'on co-construit avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire pas les uns contre les autres, comme c'est quand même trop souvent le cas, et dont j'ai été le premier aussi dans cette logique-là. Mais plus on va être dans une logique de co-construction entre les parties prenantes, plus on obtiendra des résultats. Ça, c'est vraiment, je pense, la clé pour la suite, et peut-être un tournant et une chance pour demain. Merci.